petite décharge d'adrénaline pour Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous revoir pour nous après quelques semaines d'absence. Alors, ne soyez pas inquiets, on n'est pas souffrant. On passe simplement tous nos week-ends à Grenoble en ce moment pour aider nos enfants à retaper leur futur appartement. Alors, les deux dernières fois où j'ai consulté le planning pour voir quelles étaient les dates qui étaient retenues pour moi et quels étaient les thèmes des prédications, deux fois j'ai vu thème libre. Puis après, j'ai regardé les dates, Pâques, Pentecôte. On se sent en liberté un peu surveillée. Alors évidemment, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Et si vous voulez bien, cette prédication se décomposera en deux parties. Une première partie où on évoquera assez rapidement la première Pentecôte. Et puis une deuxième où on se laissera exhorter par l'apôtre Paul au sujet du Saint-Esprit. Alors une première lecture, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, les versets sont affichés dans Acte 1. C'est donc Luc qui parle et qui dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces premiers versets, pour situer le contexte, si on essaye de prendre un peu la place des disciples, ils viennent quand même de vivre trois années plutôt particulières, et les dernières semaines ont été particulièrement inattendues et riches en événements. Et au moment où nous prenons ce texte, eh bien, les disciples sont dans l'attente de quelque chose qui leur a été annoncé. L'effusion du Saint-Esprit. Alors je pense que pour les disciples, le Saint-Esprit c'était clairement l'Esprit de Dieu, mais concrètement, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, recevoir l'Esprit de Dieu ? Probablement n'imaginait-il pas la forme que nous allons voir maintenant au chapitre 2, les quatre premiers versets. Vous noterez l'obéissance des disciples, hein, puisqu'il leur avait dit de rester à Jérusalem. Eh bien, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors on a une description, à la fois précise mais qu'il ne faut pas prendre à la lettre quand on parle de langues de feu. La traduction ici dit « semblables à des langues de feu ». Donc ce sont des images pour essayer de décrire les choses. Et il y a dans cette effusion du Saint-Esprit une dimension qui me frappe, c'est qu'elle est à la fois globale, c'est tout le groupe des 120 qui reçoit le Saint-Esprit, et individuelle puisque les flammes sont séparées les unes des autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La suite du texte nous dit que ce sont des langues tout à fait intelligibles. Ce n'est pas un langage que personne ne comprend. Au contraire, les gens se comprennent entre eux. Et sans vouloir le développer, moi ça me fait penser à la tour de Babel où les hommes ont voulu s'élever à Dieu et Dieu les a dispersés en faisant en sorte qu'ils ne puissent plus se comprendre. Alors que là, au contraire, par une intervention extraordinaire, les gens se mettent à parler et la communication est rendue possible. Alors Jésus leur avait annoncé cela, pas seulement dans le livre des Actes, comme nous l'avons vu, mais déjà dans, je me suis borné à l'évangile de Jean, où il annonce un consolateur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Au moment du départ, Jésus va être élevé dans les cieux, il prend ce soin de dire, c'est pas une fin, c'est juste autre chose qui continue autrement. Et on voit bien ici les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils qui prie le Père, et le Saint-Esprit qui viendra en nous. Ce Saint-Esprit, il nous est d'abord présenté comme un consolateur. Et cela, ça nous fait du bien. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être accompagné. « Je ne vous laisserai pas orphelin », nous dit Jésus. « Je ne vous abandonne pas, il y aura un successeur. » Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un consolateur, c'est aussi un conducteur spirituel. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit sera aussi un témoin. L'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et là, on voit que si les deux premières dimensions étaient personnelles, un consolateur, un conducteur spirituel pour nous, ici on commence à avoir une autre dimension, rendre témoignage. Là, on se tourne vers les autres. Et je n'ai pas trouvé le terme idéal pour résumer ce mot. Il nous est dit aussi que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne du discernement, celui qui nous montre tel que nous sommes, si du moins nous voulons l'écouter. Sa mission, c'est non seulement de consoler, nous l'avons dit, mais d'enseigner, de conduire, d'annoncer, de rappeler, de témoigner, de convaincre. Et c'est bien ce qui commence à se réaliser le jour de la première Pentecôte. Je ne lirai pas ces versets, mais je vous en donne un résumé. Tous ces gens qui parlent subitement des langues étrangères, eh bien, ça suscite la curiosité, l'interrogation. Et les témoins disent, mais que veut dire ceci? Alors on voit déjà là que les hommes n'ont pas changé. À l'époque, il y a ceux qui s'interrogent, puis il y a ceux qui disent, ils ont bu du vin doux, quoi, ils sont sous. Je me dis qu'on ne pourra jamais faire en sorte que tout le monde prenne au sérieux l'annonce de l'Évangile. C'est malheureusement comme cela. Mais ça va donner l'occasion à Pierre, ce questionnement, de prendre la parole et de dire « Mais tout ceci, vous avez déjà été annoncé par le prophète Joël » et il saisit l'occasion pour apporter son témoignage. Au verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Quand on se demande comment il faut évangéliser, il ne va pas en douceur, Pierre, je veux dire, c'est un message de vérité, il annonce les choses. Et au verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui vous a été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » D'abord, provoquer une prise de conscience, rendre les gens conscients de leurs péchés, et quand ils en prennent conscience, alors leur dire, repentez-vous, soyez baptisés et recevez le don de l'Esprit. C'est les bras ouverts. Vous voyez ce que nous on vit ? Eh bien, venez, vous êtes invités de la même façon. Ce que je remarque, c'est que la première conséquence de l'effusion du Saint-Esprit, eh bien, c'est que l'Évangile se répand, que la bonne nouvelle est annoncée. Pour Pierre, eh bien, on voit qu'il est métamorphosé d'une certaine façon. Aujourd'hui, on dirait qu'il est dopé. Il a pris des substances qui galvanisent son énergie. Il est plein de hardiesse et de zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Et on voit que par l'action du Saint-Esprit, Pierre réussit à convaincre ce jour-là 3000 personnes, nous est-il dit, qui vont demander le baptême. Alors nous en arrivons à la deuxième partie de cette prédication. On a eu un tout petit aperçu des effets du Saint-Esprit. Et je me dis que quand on voit ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, on comprend bien pourquoi Paul va dire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Dans la Bible du Semeur, la traduction est « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit se reçoit. Il ne se gagne pas, il ne se mérite pas. C'est un don de Dieu, et Jésus lui-même a bien souligné à plusieurs reprises que c'est son Père ou lui-même qui l'envoie. Alors, qui peut recevoir le Saint-Esprit ? Eh bien, on a déjà eu une réponse le jour de la Pentecôte proprement dite, ceux qui se repentent et qui croient. C'est confirmé dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y a quelquefois des discussions dans nos milieux pour savoir si on a bien reçu l'Esprit ou pas, et si les manifestations de l'Esprit sont là ou pas. Ce sont des choses, je ne dirais pas qui sont sans importance, mais qui ne sont pas essentielles à mes yeux, puisque la parole nous dit que ceux qui ont reçu l'Esprit, ce sont ceux qui croient. Donc si vous confessez Jésus, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si vous avez reçu l'Esprit. Vous l'avez reçu à ce moment-là. Pas besoin d'être parfait pour recevoir le Saint-Esprit. Il suffit de croire. Tous les croyants bénéficient de la présence constante du Saint-Esprit. Et pourtant, cela ne signifie pas que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Et je vais vous faire une citation un peu longue de Jules Marcel Nicole dans son précis « Doctrine chrétienne ». C'est un ouvrage que je consulte assez régulièrement. Je trouve que c'est un auteur qui a vraiment un esprit de synthèse très, très poussé. Et quand je me suis dit que j'allais essayer de résumer ça, je me suis dit que je ferais moins bien que lui, alors je vais vous lire le texte. Parlant justement d'être rempli de l'esprit, Jules Marcel Nicole nous dit « Un exemple pris dans la vie quotidienne permet d'expliquer cela. Je peux recevoir un fournisseur dans mon vestibule. Aujourd'hui, on dit dans mon entrée. Il est sous mon toit, mais il n'y occupe qu'une place modeste et je ne désire pas qu'il aille plus loin. Un visiteur ordinaire sera introduit dans le salon, c'est déjà un peu plus. J'ai du plaisir à recevoir un ami à ma table, et même à le loger quelques jours. Enfin, dans un ménage normal, le conjoint a tous les droits. Il peut ouvrir toutes les armoires, visiter tous les tiroirs, fouiller tous les recoins de la cave au grenier. Il remplit vraiment la demeure. Lorsque le Saint-Esprit vient élire domicile en nous, il y vient dans sa plénitude. Il ne fait pas qu'y poser le pied. Il n'est pas une force impersonnelle dont une mesure plus ou moins grande nous seront accordées, car, Jean 3, verset 34, Dieu donne son esprit sans mesure. Il est une personne indivisible, mais nous avons parfois le cœur partagé. Nous sommes heureux de la présence de l'esprit dans notre vie, tout en ne souhaitant pas qu'il se montre envahissant. Nous préférons qu'il ne vienne pas nous déranger dans telle ou telle activité suspecte, nous inciter à mettre ceci ou cela en ordre dans notre comportement. Nous entendons nous réserver les clés de divers domaines de notre existence. Dans ces conditions, l'esprit est en nous, mais nous ne sommes pas remplis de lui. Si par contre nous lui laissons toute la place, sans opposer de résistance consciente sur aucun point, et ce mot, moi, m'a retenu, sans opposer de résistance consciente, alors il vient nous remplir et peut ainsi mener à bien l'œuvre de notre sanctification. Fin de la citation. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnu, mais effectivement, moi, il y a des coins de temps en temps où je vois bien que il reste des zones un peu d'ombre où on n'est pas totalement consacré, totalement ouvert. Ça nous arrive tous, je crois. Même Pierre, qui était dopé là, le jour de la Pentecôte, il a eu des jours sans. Un exemple, Paul résiste à Pierre un moment en disant « Je voyais qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile », c'est au moment du concile de Jérusalem. Et donc, Paul réprimande Pierre. Ce jour-là, on peut penser que Pierre, il n'était pas complètement rempli du Saint-Esprit, puisque Paul doit le reprendre. Et pourtant, Pierre a connu plusieurs épisodes où il a été rempli du Saint-Esprit. Quand il s'est trouvé face au Sanhédrin, il a répondu avec une autorité qui fait qu'on l'a relâché. Quand ils ont été libérés, qu'ils ont chanté et tout, il nous a dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et donc on fait ce constat que nous avons reçu l'Esprit, mais ce n'est pas facile d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Alors on doit y veiller et en même temps on ne doit pas s'inquiéter si on n'est pas constamment dans cet état-là, puisque même si c'est dommage, c'est malheureusement humain. Nous sommes capables d'obéir parfois au Saint-Esprit, mais nous rencontrons des difficultés à être toujours soumis au Saint-Esprit. Nous connaissons des hauts et des bas, comme on dit. Jésus nous décrit l'Esprit Saint comme un fleuve d'eau vive, pas comme une citerne qu'on aurait remplie une fois pour toutes, et en mettant bien le couvercle dessus, ça y est, pas d'évaporation, on aurait notre dose une fois pour toutes. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience faite une fois pour toutes, c'est au contraire un développement progressif. Soyez remplis de l'Esprit, c'est un impératif. Donc c'est quelque chose qui nous est demandé, et c'est un impératif présent avec cette notion du présent qui est quelque chose qui dure, qui doit être permanent, qui doit se conformer à nouveau. Et nous sommes appelés à faire le plein souvent, puisque l'image du fleuve, c'est de l'eau qui coule et qui est constamment réalimentée. Et je repensais à cette anecdote que m'a rapporté mon fils, là, après son voyage au Canada au mois de septembre. Ils ont traversé la moitié du Canada en voiture, ça leur a pris 5 jours. Et c'est son beau-père qui est canadien, qui était au volant. Et mon fils a été surpris de voir que dès que le réservoir était à moitié vide, eh bien, il se mettait à chercher une station. Parce qu'ils peuvent rouler 3-4 heures sans croiser la moindre pompe. Et je me disais que on ferait peut-être bien, nous aussi, de surveiller la jauge. Alors, on n'a pas de jauge, on n'a pas un tableau de bord avec une jauge Saint-Esprit, là. Heureusement pour nous, vous imaginez ce qu'on regarderait le dimanche en arrivant au culte. Ah tiens, lui, il en est où? Vous voyez les scènes que ça pourrait donner. Mais il est important que nous fassions attention de ne pas être en panne sèche, ou du moins d'avoir le fond du réservoir. Vous savez qu'on peut tomber en panne, même rien qu'avec le fond du réservoir, parce qu'il y a des saletés qui se déposent et tout, et on peut tomber en panne même avec un fond de carburant. Et Jésus nous donne un avertissement aussi à ce sujet-là. Il donne cette image, il dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, donc lorsqu'un homme s'est converti, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Il y a quelqu'un qui vient d'être expulsé, là, donc il se retrouve à la rue, il ne voit pas où aller. Alors il dit ben, « je retournerai dans la maison où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Ben oui, quand on s'est converti, on a fait un peu le ménage dans notre vie, quoi. Je veux dire, on a mis de l'ordre et tout, c'est bien accueilli, c'est bien, c'est un bel intérieur. Alors il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Parce que si après avoir fait le ménage, on n'habite pas la maison, ben, y a des squatteurs qui viennent et qui l'occupent, et qui vont tout dégrader. On pourrait résumer cette pensée en disant « la nature a horreur du vide ». Et si nous ne sommes pas remplis des pensées de Dieu, eh bien ce sont les pensées du monde qui vont prendre la place qui revient à Dieu. Or, la parole nous dit que Dieu est un Dieu jaloux qui ne veut pas nous partager, et en cela il nous démontre son amour. Alors me direz-vous, comment être rempli du Saint-Esprit? J'ai envie de vous dire, vous vous posez vraiment la question? Je sais pas, vous vous posez la question où il faut faire le plein de carburant pour votre voiture? Non, vous savez qu'il faut aller à la pompe. Eh bien, d'où vient le Saint-Esprit? Il vient de Dieu, il vient de Jésus. Donc, il faut lui demander, tout simplement. C'est lui qui est la source. Et je crois que le plus difficile, ce n'est pas de savoir où se ravitailler, mais c'est de penser à se ravitailler. Quand on conduit, on a pris l'habitude d'avoir toujours un œil qui, sur la jauge de carburant sans même s'en rendre compte. Mais spirituellement, est-ce qu'on a ce même réflexe de se demander assez régulièrement où j'en suis dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce qui me préoccupe? Où sont mes priorités? À quoi j'occupe mon temps? Et si vous faites un arrêt de temps en temps pour regarder ça, vous verrez bien que où en est votre niveau de Saint-Esprit en ce moment. Et je dis ça à un moment où tous mes week-ends sont pris, etc. Et je suis le premier concerné, je veux dire, occupé par plein de choses. Comment laisser à Dieu la place qui lui revient? Parce que Dieu a sa part. C'est lui qui donne. Il nous est dit dans l'évangile de Luc, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» On a eu peur la semaine dernière de manquer de carburant parce qu'il y avait un mouvement de grève auprès de Dieu et de Jésus. Ça n'arrive pas. Dieu donne sans mesure. Il suffit de lui donner. Mais quelle est notre part à nous? Alors je vous lis ici, Éphésiens 5, dans la version Parole vivante. Alors c'est une version qui s'éloigne de temps en temps de l'original, mais qui développe les idées, ça m'a paru intéressant ici. Veillez donc, avec un soin tout particulier, à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ce sont des mots qui nous parlent, ça. Veillez, responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons, et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons un temps où domine le mal. Ça a été écrit il y a 2000 ans, mais comme c'est actuel. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, et je pense qu'ici le vin c'est tout simplement l'image de la vie qui nous est offerte dans le monde facile. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Je vais reprendre la citation exacte que j'ai oublié de noter là, pour voir comment les disciples, eux, se sont comportés peu de temps après la Pentecôte. Acte 2, c'est verset 42. Rappelez tout ce qu'on nous a dit, veillez, ne soyez responsables, etc. Ne vivez pas au jour le jour. Eh bien là, il nous est dit, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est le temps de la conclusion. En ce jour de Pentecôte, rappelons-nous que Dieu a choisi de venir demeurer en nous, habiter. Ce sont des termes qui signifient la constance. Ce n'est pas une visite qu'il nous rend de temps en temps, comme nous pouvons nous avoir l'impression de le visiter tous les dimanches matins ou éventuellement à une réunion de semaine dans l'église. Dieu a choisi de venir habiter parmi nous. Et comment ne pas penser à l'histoire de la relation de l'homme et de Dieu. Dieu qui crée l'homme qui s'éloigne, Dieu qui lui donne la loi pour lui montrer que l'homme prenne conscience de son péché, et puis l'homme qui échoue, donc Dieu qui donne son Fils parmi nous, ce Fils qui donne sa vie, et ensuite Dieu qui vient en nous pour nous aider à faire sa volonté. J'ai envie de dire, si ça, c'est pas de l'amour. Il vient en nous pour nous guider, nous éclairer, nous convaincre, nous consoler. Mais rappelons-nous aussi que le premier effet de l'effusion du Saint-Esprit, ça a été l'annonce de la parole de Dieu. Et nous avons grand besoin de ce Saint-Esprit pour annoncer la parole. Car c'est lui qui convainc, c'est pas nous. Soyons-en bien conscients. À plusieurs reprises, Jésus dira aux disciples, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz ou de comment vous vous défendrez. Le Saint-Esprit lui-même vous dira ce qu'il faudra dire. » Reconnaissons que nous avons grand besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour rester purs et consacrés, pour être des témoins de Jésus-Christ, pour annoncer sa parole, pour faire face à l'indifférence ou à l'hostilité du monde à l'égard de Dieu et de ses témoins. Alors pour terminer, j'avais envie de dire, aujourd'hui finalement c'est un anniversaire. On fête la naissance de l'Église. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais le jour d'anniversaire, on fait un cadeau, en général. Alors, quel cadeau aimeriez-vous faire à Dieu à l'occasion de cette Pentecôte ? Amen.